Chapitre 6. La demande en mariage. Le lendemain, vers 2 heures, Florent montait l'avenue du président Wilson, toujours chargé de sa boîte de couleurs. À force de retouches, le portrait de Mademoiselle I.P. avait été complètement abîmé, mais il ne s'en souciait pas, tellement joyeux qu'il était de revoir Daniel. Toute la nuit, il avait songé aux paroles qu'elle lui avait dites la veille, au cours de cette promenade qui avait eu de si fâcheuses conséquences. L'une d'elles lui revenait sans cesse à l'esprit. « Quand je vous ai vu pour la première fois et que j'ignorais qui vous étiez, j'ai tout de suite eu le pressentiment que votre âme était différente des autres. » Il lui avait alors demandé quels avaient été les signes ou les indices qui avaient déterminé ce jugement flatteur. Elle n'avait pas voulu lui répondre. « plus tard, vous le saurez. » Depuis, il s'efforçait de trouver ce que Daniel savait sur sa personne de plus que lui-même. Il montait donc l'avenue du président Wilson, préoccupé par cette recherche, lorsqu'en arrivant devant le somptueux immeuble des Marrondiers, il s'entendit appeler. Il se retourna. Personne ne lui fit signe. L'idée lui vint heureusement de lever la tête. Quelle ne fut pas sa surprise de voir Daniel à une fenêtre du deuxième étage. Elle fit un geste dont il ne comprit pas la signification. Soudain, il vit une petite tache blanche se détacher de la main de la jeune fille, puis, quelques secondes après, il entendit, tout près de lui, un bruit mat sur le trottoir. Il se pencha, ramassa une pièce de monnaie, enveloppée d'un papier à demi défait par le trajet dans l'air et le choc sur le sol. « Lisez !» entendit-il encore. Il déplia l'enveloppe et lut ce qui suit, hâtivement écrit au crayon. « Il faut que vous demandiez ma main à mon père, sinon ne venez pas. Je vous expliquerai tout plus tard. » De la fenêtre de sa chambre, Daniel regardait avidement le jeune homme. Une seconde, il pensa à lui crier sa joie, mais il se retint, se contenta de faire un geste de triomphe. Puis, pour qu'elle comprît que non seulement il ne se dérobait pas, mais que c'était ivre de bonheur qu'il allait demander sa main, il franchit les quelques mètres qui le séparaient de la porte cochère en courant. Une fois en dehors du champ visuel de Daniel, il s'arrêta cependant. Que s'était-il donc passé? Comment se faisait-il que la jeune fille lui guettait pour lui faire parvenir ce message? Monsieur et Madame Marrondier s'imaginaient-ils que le peintre avait compromis Daniel et exigeait-il qu'il réparât immédiatement? Brusquement, il se rappela qu'il avait couru pour entrer dans l'immeuble. Il ne pouvait donc s'attarder. Un instant après, il sonnait chez les Marrondiers. Mais, alors que d'habitude le valet le conduisait directement dans le bureau, il le pria d'attendre dans l'antichambre. Quelques instants après, il le faisait pénétrer dans le petit salon vitrine. Florence y trouvait à peine depuis quelques secondes que M. Marrondier l'y rejoignait. « Asseyez-vous, monsieur !» dit-il tout de suite. Le peintre obéit, non sans inquiétude. « Je vous attendais justement, continua M. Marrondier. Ma fille m'a annoncé votre visite. Je dois vous dire que j'ignorais complètement que vous aviez pris l'habitude de venir chaque jour chez moi. Enfin, cela me permet de vous revoir au moment même où j'ai à vous parler. Quel âge avez-vous ?
25 ans.
Bien, vous n'êtes plus un enfant. Vous allez donc me comprendre tout de suite. Si ma femme s'est intéressée à votre peinture et moi par la même occasion, ce n'est pas pour qu'en guise de remerciement, vous comptiez fleurette à ma fille. J'ai beau apprécier votre talent de peintre, vous me reconnaîtrez le droit de ne pas apprécier votre manière d'agir. Je trouve vraiment singulier qu'un jeune homme comme vous, que je reçois chez moi les yeux fermés, profite de ma confiance pour détourner une enfant, car ma fille, ne l'oubliez pas, n'a que 18 ans, de ses devoirs. Je vous demanderai donc de ne plus revenir ici à l'avenir. » En disant ces mots, M. Marrondier sonna. « Apportez-moi le tableau, » dit-il au valet de chambre. M. Marrondier continua. « Je n'en continuerai pas moins d'admirer vos œuvres. Vous avez du don de coloriste allié à une sensibilité charmante, je le reconnais. Mais cela, c'est le domaine de l'art. » À ce moment, le valet de chambre parut, tenant le portrait de Mademoiselle I.P. comme un plateau. « Joseph, donnez-moi ce tableau. » Le domestique obéit. M. Marondier le contempla quelques instants, puis le tendit au peintre. « Emportez votre œuvre, monsieur. J'aime mieux qu'elle ne demeure pas ici. » Florent ne bougea pas. Maintenant, il comprenait pourquoi Daniel l'avait prié de demander sa main. Sans doute, lorsqu'elle était rentrée la veille, elle avait été obligée de raconter qu'elle s'était promenée avec lui. On s'était imaginé qu'il était en quête de bonne fortune. Elle avait craint que, par timidité ou par ignorance des sentiments qu'il inspirait, il se laissât plutôt accuser que de dévoiler son amour. En lui écrivant ce mot, en même temps qu'elle lui dictait la conduite qu'il lui convenait de prendre pour gagner la sympathie de ses parents, elle lui avouait qu'elle consentait à devenir sa femme, qu'elle l'aimait. « Posez ce tableau, monsieur !» répondit solennellement Florent. « Je n'en veux plus !» fit sèchement M. Marondier. « Je vous demande de le poser !» répéta le peintre. « J'ai à vous parler !» Une telle autorité émanait de l'artiste que M. Marondier obéit. Il posa le tableau à terre contre un mur. Les mains libérées, il alluma une cigarette, sans doute pour paraître avoir agi de lui-même. « Monsieur, commença le peintre, je ne suis pas venu aujourd'hui chez vous, comme il peut vous le sembler, pour faire des retouches à ce tableau, que, à ma grande satisfaction, vous aviez paru goûter, si aujourd'hui il ne vous plaît plus, mais pour vous demander un entretien. Le hasard semble avoir bien fait les choses, puisque vous désiriez également me parler. » « Assez de préliminaires. Je n'ai pas de temps à perdre. D'habitude, à cette heure-ci, je suis déjà à mon bureau. Justement, j'allais vous exposer la raison de ma visite. Je suis venu, monsieur, vous demander la main de votre fille. » M. Marondier, qui avait aux lèvres la cigarette qu'il venait d'allumer, fut frappé d'un tel saisissement qu'il l'oublia. « Comment ? » dit-il sans l'ôter, si bien qu'elle tomba à terre. « Vous venez me demander la main de ma fille ? C'est à croire que vous êtes subitement devenu fou. Sortez, je vous prie, sortez !» En disant ces mots, il prit le tableau, le mit de force dans les mains du peintre. « Mais je l'aime !» balbutia ce dernier, qui ne s'attendait pas à cet accueil et qui s'était imaginé, dans sa naïveté d'artiste, que la mauvaise humeur que lui avait témoignée à son arrivée M. Marondier avait été provoqué par le fait qu'il ne s'était pas déclaré plus tôt. « Je vous en prie, sortez et ne revenez plus jamais ici, sans quoi je me fâcherai. » C'était avec colère que M. Marondier avait prononcé ces derniers mots. Aussi, Florent ne put-il se défendre d'un certain étonnement. Qu'entendait donc M. Marondier par « je me fâcherai »?« Une dernière fois, je vous prie de sortir. » « Il m'a peut-être mal compris, » pensa le peintre. « Je suis venu vous demander la main de votre fille, » répéta-t-il. « Vous supposiez peut-être que je n'avais pas l'intention d'épouser Daniel. » Cette fois, M. Marondier ne se contint plus. C'était un homme d'une force peu commune. Il prit le jeune homme par le bras, l'entraîna vers la porte. « Faites attention, » dit Florent, comme un coup venait d'être donné à son tableau. Comme ces jeunes femmes qui, au cinéma, s'éloignent tristement d'une fête sans s'apercevoir que le châle qu'elles tiennent à la main traîne à terre, le peintre descendit lentement l'escalier sans se soucier du portrait de Mademoiselle I.P. Que s'était-il donc passé pour que ces gens qui lui avaient jusqu'alors témoigné tant de sympathie le traitassent brusquement plus mal qu'un étranger? Le visage de la jeune fille se présenta devant ses yeux. « Daniel, murmura le peintre, c'est vous que j'aime. Vous seriez seul au monde, vous n'auriez ni famille ni fortune, que mon amour pour vous serait exactement le même. C'est ce que vos parents n'ont pas compris. Ils m'ont pris pour un aventurier. Ils ont cru que j'étais intéressé. Si cela avait été, eussé-je consacré ma vie à l'art ? Daniel, je veux croire que vous, au moins, savez la vérité. » Au rez-de-chaussée, au moment de quitter la maison, Florent se rendit compte de l'étendue de son malheur. Dans un instant, il ne serait plus qu'un passant anonyme. De nouveau, il songea à Daniel. Cette jeune fille était trop droite pour consentir à le voir en cachette de ses parents. Elle aimait son père. Jamais elle ne voudrait lui faire cette peine. Pourtant, elle aimait l'artiste. Il relut le billet qu'elle lui avait jeté par la fenêtre, l'embrassa. À ce moment, la concierge parut sur le seuil de sa loge et jeta sur Florent un regard méfiant. Le peintre sortit, fit quelques pas, indécis sur la direction qu'il devait prendre. Il leva machinalement la tête. Daniel était à la fenêtre de sa chambre. Par geste, il lui fit comprendre qu'on l'avait mal accueilli.
« Ne vous éloignez pas !» lui dit-elle, profitant de ce que l'avenue était silencieuse un instant.
Sur ces mots, elle disparut. Une joie immense envahit alors l'artiste. Il traversa la chaussée et se posta derrière un arbre de l'allée Cavalière. Daniel allait peut-être descendre. Elle allait le rejoindre, lui dire qu'elle l'aimait, lui redonner courage. Un quart d'heure s'écoula ainsi, durant lequel le peintre ne cessa de surveiller la fenêtre où avait paru la jeune fille et la porte de l'immeuble. Il n'eût pas été embarrassé par le tableau et sa boîte de couleurs qui lui marchait de long en large, tellement il était nerveux. Les minutes lui semblaient interminables. La jeune fille saurait-elle se rendre libre ? Allait-elle paraître dans un instant, lui faire signe de la suivre, tourner au premier coin de rue ? Ou bien, n'ayant pu sortir, ne la reverrait-il qu'à sa fenêtre, loin de lui, séparée par la hauteur de deux étages ? Soudain, comme quand il était arrivé, il entendit son nom. Il leva les yeux. Daniel était à sa fenêtre. Elle n'avait donc pu sortir. « Approchez-vous » entendit-il encore. Il laissa le tableau et la boîte de couleurs au pied de l'arbre, retraversa la chaussée, la tête levée, au risque de se faire renverser par une voiture. « Attention, prenez ce papier » perçut-il. Un instant après, il ramassait un autre billet de Daniel. Il voulut la remercier, lui dire un mot. Non seulement elle avait disparu, mais la fenêtre était fermée. Ce ne fut que lorsqu'il se fut éloigné de l'immeuble des Marondiers qu'il lut le billet. Comme le premier, il avait été écrit à la hâte et au crayon. « Cher Florent, disait-il, je sais ce qui est arrivé. Vous ne pouvez souffrir autant que moi. Mon père me fait partir tout à l'heure pour le château de Selles. Il espère ainsi m'empêcher de vous revoir. Venez dès que vous pourrez à Chantilly. Le château de Selles se trouve entre cette dernière ville et Crouy-en-Télie, près de Précy-sur-Oise. Vous demanderez, on vous l'indiquera. Une fois arrivé devant le château, vous n'aurez qu'allongé le mur sur votre droite pendant 500 mètres environ. Là, vous apercevrez une auberge au carrefour de Cuise. Vous trouverez certainement une chambre. De cette auberge, on aperçoit un étang et la lisière de la forêt de Chantilly. Sur la gauche de cet étang, il y a un ancien pavillon de chasse abandonné. Attendez-moi là, après-demain, à 3 heures. Si je ne viens pas, ce sera que cela m'a été impossible. Revenez chaque jour jusqu'à ce que je vienne. Je trouverai certainement le moyen de m'échapper. Mais ne vous approchez pas du château. Vous l'apercevrez du pavillon sur votre droite, à travers les arbres. Je vous quitte, mon père peut entrer d'un moment à l'autre. À vous, de tout mon cœur. »